Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut les légendes, nouvelle hors-série, spéciale préparation physique à l'approche de l'hiver, ça peut nous faire que du bien, avec l'un des coachs de Benjamin Bonzi, actuel 63e joueur mondial. Il s'agit de Ralph Bogossian qui accompagne ce dernier depuis qu'il est 400e mondial et qui entraîne par ailleurs un paquet de joueurs et de joueuses de son club d'un point de vue physique et tennistique. Ralph est allé se former à l'étranger quelques années, en Australie, aux US et en Allemagne, dans l'académie d'Alexander Vaske et Rainer Schüttler, où s'entraînent notamment Robin Söderling, Janko Tipsarevic, Andrea Petkovic ou encore Angélique Kerber. Ralph entraîne aujourd'hui à proximité de Marseille et collabore avec Lionel Zimbler, qui a révélé Benoît Paire et qui est l'actuel coach de Benjamin Bonzi. Donc, on a également sorti notre 6e masterclass dédiée à la préparation physique et c'est la première qui est tournée sur le cours avec l'invité de ce hors-série, Ralph Bogossian. Ce nouveau cours est enregistré sur un terrain de tennis, donc au soleil, et il est possible de le suivre au format audio et vidéo. Et je t'ai également concocté un support écrit en complément pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours. T'as un lien en dessous en description, et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible, en allant tout en bas du lien en description ou en m'écrivant à max@tennislegende.fr. Place à la première partie de ce nouvel hors-série dédié à la préparation physique. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Eh bien, Ralph, déjà, est-ce que tu as un surnom ou pas?
Oui, Ralphie.
Génial. Alors, Ralphie, j'ai eu l'idée de... Déjà, merci de prendre le temps parce qu'il est 7h36 en France. On est lundi matin. Moi, il est un peu plus tard. Je suis à La Réunion. Ça me fait plaisir de tourner cet épisode en direct de cette belle île. Et j'ai eu l'idée de ce hors-série, on le fera sous format hors-série un peu plus court que les épisodes de podcast parce que en enregistrant avec Benjamin Bonzi, Hugo Nice et Kevin Blandy la dernière fois en direct de... Ils étaient où? Je crois que c'est Saint-Pétersbourg. Ouais, Ben m'a confié que tu étais un fervent auditeur du podcast et ça me fait super plaisir. Et tu es aussi et surtout son prépa physique, un de ses deux prépas physiques.
Oui.
Je trouve génial d'avoir ton parcours et ton approche là-dessus. Et puis d'aller un petit peu plus loin, parce que là, l'hiver approche. On va, tous les auditeurs, avoir tendance à un petit peu rester peut-être plus feignant et statique à cause du froid. Et tu vas pouvoir nous transmettre, du coup, quelques exercices sympas pour progresser dans notre prépa physique.
Ouais, pour tout simplement se mettre en action, pour faire des choses.
Yes. Simplement. Et pour commencer, Ralph, est-ce que tu peux nous dire où tu es basé? Comment tu es rentré en contact avec Kevin Blandy? Est-ce que, enfin, nous faire un petit peu ton CV rapidement vis-à-vis du tennis, quoi?
Ben, moi, je m'appelle Ralph Bogossian, voilà, j'ai 37 ans. Je suis brevetteur de tennis, également préparateur physique. J'ai un master en sciences du sport. J'ai aussi un diplôme d'entraîneur fédéral de haut niveau. Et j'ai bossé en académie en Australie, aux États-Unis, en Allemagne. Et en fait, moi, je suis basé sur la région marseillaise depuis que je suis né. Et je m'étais dit un jour, si je veux entraîner des joueurs professionnels, il faut que j'ai une expérience à l'étranger absolument. Je veux construire un CV parce que j'ai pas été négatif. J'ai été 2-6. Et mon rêve, c'était de me rapprocher de ce niveau-là, quoi, tout simplement. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai commencé à entraîner des joueurs de plus en plus forts. Et j'ai entraîné une fille de la région qui s'appelle Caroline Romeo, qui avait été entraîné par Lionel Zimbler. Et du coup, Lionel m'a contacté pour que je m'occupe des joueurs qu'il allait avoir. C'était en 2019. Il m'a dit, Ralph, j'aurai un projet avec plusieurs joueurs. Est-ce que t'es prêt? Je suis OK. Du coup, il m'a mis sur le projet avec Benjamin, qui était 400e, et deux autres joueurs, dont Julien Canina, que j'ai toujours. Et depuis, la structure s'est agrandie, puisqu'il y a des joueurs comme Laurent Locoli, des joueurs comme Calvin Emery, qui font avancer la structure. Il y a d'autres joueurs dont je ne m'occupe pas, mais qui font partie de l'entraînement avec Lionel Zimbler et Martin Vess. Donc voilà un petit peu le parcours. Mais je suis toujours en club. Hein. C'est le mercredi, je suis toujours en école de tennis.
D'accord, très bien. Et Juste pour rappel, Lionel Zimbler, donc, qui a coaché Benoît Paire un bon moment et qui est actuellement le coach de Benjamin Bonzi.
C'est ça.
Et
Ouais, c'est ça.
Martin Weiss, tu peux nous dire dans les grandes lignes qui l'accompagnait?
Martin, c'est un joueur qui était. Moi, quand je l'ai connu, il était à moins 2. Et je le trouvais ultra facile. Et il y a une frappe de balle. Alors là, tu vois, pour le coup, tu parles de tennis champagne, là, c'est. Et je le trouvais très talentueux. Et je l'ai retrouvé un petit peu aux États-Unis, parce qu'il avait fait une fac américaine à Fresno. Il avait gagné le tournoi de ma ville. Et puis très vite, il s'est entraîné avec Lionel, qu'il connaissait depuis une longue date. Et il est arrivé dans le top 250. Et je suis pas persuadé, je pense que s'il avait un peu poussé la machine, c'est un mec qui serait allé encore plus haut. Voilà. Et du coup Martin bosse en tant que deuxième entraîneur dans la structure, en tant que travel coach aussi. Et voilà, donc moi je suis avec les deux en tant que préparateur physique.
D'accord.
Voilà. On est essentiellement basé sur Marseille, sur le Williams Tennis Club et sur le CSM.
On pourra en parler toute la nuit, mais tu es parti où en Australie, aux États-Unis, et je crois que tu m'as dit Allemagne aussi.
Ouais. Alors en Australie, je suis parti sur la côte ouest.
Ouais, donc
Après, c'est
tu as
exactement.
commencé par les US?
Non, je commence par l'Australie.
Et pareil,
Je commence par l'Australie, mais sur la côte ouest.
avant de nous dire où tu étais en Australie, comment tu as fait pour prendre tes couilles et y aller? Parce que c'est quand même c'est pas évident, quoi.
Ouais, en fait, ça remonte à quasiment 14 ans. J'étais en fac, et puis je végétais un peu. Et j'avais pris mal une décision d'un enseignant de fac qui me disait, mais. Ouais, mais si tu veux faire un échange, il fallait s'y prendre l'année précédente. Je fais mieux rigoler. L'année précédente, je suis venu, vous m'avez dit qu'il fallait attendre un an. Et là, vous me dites ça, je sais pas, c'est quand même un peu gros. Et là, j'ai vrillé. Et je me suis dit, ben, cette expérience-là à l'étranger, je vais la faire tout seul. Et du coup, je parle anglais un peu moyen, grâce à la télévision, grâce aux séries. Et j'ai commencé à envoyer des emails partout en Australie. J'ai dû envoyer une centaine d'emails, que ce soit sur la Gold Coast, Sydney, Melbourne, Cairns. Adélaïde, j'ai envoyé toutes les académies que je pouvais. Et puis, il y a eu des académies qui ont voulu m'avoir et qui m'ont dit bah, écoute, envoie-nous une vidéo. Et à l'époque, il n'y avait pas de tous ces trucs internet. Donc, du coup, j'ai fait ma vidéo dans le jardin avec mon petit appareil photo. J'ai fait ça aussi sur le terrain de tennis. J'ai gravé un CD que j'ai envoyé en Australie.
Putain.
Ça a mis 3 semaines à arriver.
Ça coûtait combien d'envoyer un CD en Australie à l'époque?
Ne sais plus, mais ça peut-être dans, ouais, peut-être dans les. Dans, ouais, actuellement, c'était ouais, 45-50 euros. C'était juste un truc comme ça. C'était pas lourd, quoi.
Ouais, et puis tu l'assures à ce moment-là, parce que tu as envie qu'il arrive le truc, quoi.
Ouais, et du coup, je reçois un email. Ah, tu peux venir. Et là, je me réjouis. Et finalement, quelques temps plus tard, le mec me dit non, désolé, je pourrais pas. Là, je me retrouve 2008. Qu'est-ce que je vais faire encore? Qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai renvoyé une salve d'email. Et là, il y a un mec qui me dit bah, écoute, si tu es prêt, dans 2 semaines, tu peux venir. Donc, du coup, je l'ai eu au téléphone. Alors, l'accent australien, en plus du bush australien, quoi, de l'ouest, extraordinaire, avec du twang dans tous les sens, je ne comprenais rien. Et j'étais là au bout du fil, je me suis dit, mais en fait, ça va le faire. Donc, je suis allé faire mon visa, c'était un working holiday visa, c'était assez rapidement. J'ai pris mon billet d'avion, en une semaine, j'étais dans l'avion, quoi.
Et
Donc,
donc t'as envoyé bouler
ouais,
le
c'était assez
l'université.
dingue. Non.
T'as envoyé bouler l'université, quoi.
Ouais, en fait, j'ai terminé mon bac plus 4. Mon master en sciences du sport, et je m'étais dit, le master 2, il m'apportera rien de plus. Et je me suis dit, ben, je vais faire ça. Voilà. Donc, je suis parti comme ça, quoi.
Et
Voilà. Et
c'était en tant qu'entraîneur de tennis à
donc,
ce
j'avais.
moment-là.
Ouais, mais pas. En fait, si tu veux, j'étais en train d'entraîner en tennis, ben, j'avais envoyé. Si tu veux, à l'époque, j'avais mon master en sciences du sport, j'avais été assistant moniteur de tennis, mais je n'avais pas encore mon brevet d'État. Et en fait, sur les pays anglo-saxons, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il était essentiellement sur la compétence et sur ta volonté de bien faire. Donc, du coup, ils m'ont accepté comme ça. J'ai été en Australie sur essentiellement de l'école de tennis, de l'école un peu de perfectionnement, tennis loisirs adultes énormément. Et voilà, dans l'un des plus beaux endroits en Australie, sur la côte ouest, vers Perth, la côte Oslo exactement, là où la Coupe Davis s'est jouée pour les Australiens sur le gazon. Donc, site mythique. Et j'ai pu voir la Open Cup aussi. Donc, et puis, je suis parti aussi à Melbourne pour le Open Australie, bien sûr. Donc,
Énorme.
voilà.
Et t'as fait combien de temps? Et après, où est-ce que t'as enchaîné?
Donc, j'ai fait un an. Et au bout d'un an, mon employeur m'a proposé un contrat. J'ai refusé parce que je voulais faire d'autres choses un peu plus dans le haut niveau. Et je m'étais dit, il faut absolument que je fasse mon brevet d'État. Donc, j'ai passé mon brevet d'État sur Cannes. Donc, là, c'est pareil, je faisais les retours tous les jours, le gym noce, parce que j'étais gym noce à côté de Marseille. Je faisais Marseille-Cannes tous les jours pour passer mon brevet d'État. Et ça a été un peu la révélation, hein. Avec des formateurs notamment comme Christophe Léonard, qui est le préparateur physique de Guillaume Méry, qui était le préparateur physique de Guillaume Méry, qui était l'un des formateurs, et qui est aujourd'hui le directeur sportif de la SLM Cannes. Donc, et j'ai eu énormément de très bons rapports avec lui.
Ouais.
J'ai toujours d'ailleurs, 10 ans après, et il m'a dit, mais Raph, tu devrais te lancer un jour sur le circuit, t'as les compétences pour, t'es motivé pour, faut que tu le fasses. Et à la suite de ça, je suis parti aux États-Unis.
Un traditionnel rappel pour nous filer un coup de main qui, je te l'assure, fait la diff sur le long terme. Mets-nous un like si t'es sur YouTube, 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast et un commentaire sympa sur les deux. Ça prend littéralement 3 secondes et demie et ça peut tout simplement changer notre vie. Libre à toi de le faire. Voilà, c'est cadeau. T'as aussi accès à la 6e masterclass avec le prépa physique de Ben Bonzi, actuel 63e mondial, Ralph Bogossian, dans laquelle on te donne toutes les clés pour travailler ton œil et avoir une meilleure lecture de balle et vision du jeu sur le court. Puis Ralph te montre et te transmet toutes ses connaissances pour mieux te déplacer sur le terrain, avec un meilleur ancrage et une plus grande stabilité à la frappe. Découvre la bande-annonce qui est juste en dessous, c'est le premier lien en description. Et pareil, comment t'as eu le plan?
Comment j'ai eu le plan? Pareil, je me suis mis sur Google et j'ai cherché les académies une par une sur les sites qui m'intéressaient, c'est-à-dire essentiellement Californie, Floride, Texas, Géorgie, Caroline du Sud, Caroline du Nord, New York, quelques-uns en Louisiane, Colorado, Utah, Oregon, Washington State, et j'ai balancé, j'ai envoyé. Et après, j'ai plus ou moins sélectionné ceux qui m'avaient répondu de manière positive. Et ça s'est restreint, ça s'est restreint. Et moi, mon plan A, c'était la Californie. Bien que je sache que le tennis en Floride, il y a plus d'académies, mais Californie, pour les paysages et pour le style de vie qui est extraordinaire. Donc voilà.
T'es vraiment une machine de motivation, de détermination surtout, parce que quand on a fait le live privé avec Sam Sumik, il y a eu pas mal de questions des auditeurs du podcast qui disaient, mais comment t'as fait la barrière de la langue, et puis prendre son courage, et puis tout plaquer, et puis connaître personne, et machin. Putain, toi, t'as fait en Australie, derrière, t'as dupliqué aux US.
Ouais.
Quand t'es arrivé aux US, est-ce que enfin, forcément, tu devais être beaucoup plus à l'aise avec la langue et puis avoir emmagasiné un peu d'expérience. Comment tu voyais le Ralph qui était arrivé en Australie, qui était un peu, qui découvrait, quoi, tu vois, comment tu as géré la langue aussi, enfin, comment tu as fait tout ça, quoi?
En Australie, c'était très drôle parce que j'avais choisi l'appartement avec mon coloc que je ne connaissais pas et je me balade sur la plage le deux, deux trois premiers jours hein, et je vois un mec habillé en tenue de tennis, un peu perdu. Je dis, excuse-moi, tu serais pas Mike? Ouais, mais comment tu sais? Je pense que tu es mon coloc. Il fait, moi je suis Ralph. Enfin, quand je dis, moi je suis Ralph, on va être coloc. On a échangé par email. Il dit, ah oui, c'est une grosse blague ça. Du coup, on a commencé à rigoler là-dessus.
Et
On a monté.
tu parlais déjà un petit peu pour lui dire tout ça sur la plage.
Ouais, je parlais un petit peu, mais c'était grâce surtout à la musique que j'écoutais, puis un petit peu aux séries en VO. Mais c'était pas non plus extraordinaire. Et le lendemain, on a commencé avec les gamins en école de tennis. Et tous les gamins me donnaient leur prénom. Mais en Australie, ils ont cette manie de couper tous les prénoms. Par exemple, Madison, Maddie, Ben, ils vont me dire Benny. Et à chaque fois, ils te coupent les trucs et tu te retrouves avec une multitude de prénoms que tu ne connaissais pas déjà à la base. Et en plus, ils sont coupés. Donc, j'ai pris mon calepin et j'ai dit à tous les gamins, allez, vous notez vos prénoms parce que je ne comprends rien.
Génial,
Et
génial.
du coup, ça s'est passé comme ça. Et la fois aux États-Unis, alors ça, c'est hallucinant, je suis arrivé très tard parce que j'habitais vers Santa Barbara. Et je suis arrivé très tard à l'appartement. Je devais me faire réceptionner par un des colocs. On était plusieurs joueurs et coachs dans cette maison. Et le joueur qui m'a réceptionné, ce n'est pas le bon joueur en question. Je lui ai dit, déjà, ça part mal là. Et finalement, le gars très sympa, il me dit, demain, je vais à l'académie, tu viens? Je suis pas, sans aucun problème. Et je me retrouve à l'académie le matin. Le directeur de l'académie vient me voir, il me dit, Ralph, tu es prêt pour bosser cet après-midi? Je fais, bah ouais, j'ai 9 heures décalage horaire, ça, ouais, ça va te faire. Je n'ai pas trop dormi. Et là, on se retrouve devant 80 joueurs. Et il dit, devant tout le monde, il fait, voilà, je présente Ralph. Bah, vas-y, présente-toi.
Oh, putain. Après,
Voilà.
tu avais quand même le bagage. Combien de temps t'as mis à bien maîtriser l'enseignement en anglais en Australie?
Je pense qu'il m'a fallu un mois, un peu
Ah
moins d'un
ouais,
mois.
ça va.
Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que pareil, chaque jour, j'avais mon colloque anglais, je demandais ça, c'est quoi, ça, c'est quoi, une ligne de fond de cours, une ligne de simple, une ligne de double. Et puis, si tu veux, mon frère a fait un peu la même expérience, un peu à l'étranger, actuellement, il est en Suède. Et là, mon frère parle cela couramment. Donc, en fait, c'est une question de se mettre en dehors de la zone de confort et d'être confortable avec ça tout le temps. C'est-à-dire que je dis, ben, ouais, je maîtrise pas la langue, mais eux non plus, ils maîtrisent pas le français. Donc, quelque part, je suis en train d'apprendre leur langue et je pense que ça va le faire. Donc,
Dans la famille Bogossian, il y a du courage, hein, il y a du mérite, c'est beau ça.
ouais, je sais pas si c'est du mérite ou du courage, mais en tout cas, c'est le fait de se dire, ben, je peux pas faire pire, quoi.
Ouais. Avant de basculer sur la partie physique, et puis ben, juste que tu nous racontes l'Allemagne rapidement, est-ce que tu peux nous dire pire et meilleur souvenir en Australie et aux US?
Ouais, moi, je dirais, bon, hormis l'Open Australie qui est extraordinaire, en plus, c'est l'année où Nadal bat Roger en finale, il y a une effervescence autour de tout ça. Mais si tu veux, moi, ce que j'adore en Australie, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, le côté cool, le côté très sportif et très festif aussi. Ça, un souvenir en particulier, j'en ai pas assez. Ouais, il y a des concerts de rock, il y a des festivals, il y a des moments sur les terrains de tennis où tu joues sur le terrain de tennis en gazon, il fait 40 degrés, 44 degrés. Ils arrêtent les matchs parce qu'il fait 44 degrés, 3. Ça, c'est extraordinaire. Sur les États-Unis, c'est les organisations pour moi où on part avec 4 Vans, qui est l'agence touriste, qui a plus 3 Chrysler. On est 80 joueurs en tournoi et il faut gérer sur quasiment 5-6 sites. Parce qu'aux États-Unis, quand tu fais des tournois sur des Open, tu ne joues pas sur un site à la fois, tu joues sur 5-6 sites qui représentent à eux-mêmes quasiment 50 cours. Et tu navigues de site à site et c'est très très cadré. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de modifier un horaire de juge arbitre, etc. C'est comme ça et c'est pas autrement. Tu ne discutes pas. Et oui, j'ai eu la chance aussi de jouer des tricalis Indian
C'est bon ça. Et
Ouais.
pré-qualif d'Indianoles, ça veut dire que tu étais combien à ton meilleur?
Mais moi, en fait, j'étais de 6, mais tout le monde peut s'inscrire. C'est ça qui est fort aux
D'accord.
États-Unis.
Ah
C'est que
ouais.
tout le monde peut s'inscrire. À condition, ben, d'être présent le jour même et d'avoir payé son inscription. Mais tout le monde peut le faire.
Et
Donc,
tu m'as dit les pires moments là que tu as vécu dans chaque pays ou pas?
non, ça, c'est des très, très bons moments. Non, les pires moments, ouais, j'en ai eu un en rentrant de soirée sur l'Australie, je sais pas trop l'endroit. Il devait être 4h-5h du mat, il n'y avait plus de train. Et on a erré sur une route avec mon coloc anglais, c'était la troisième semaine, hein, on était là-bas. Donc, on a quitté la boîte de nuit vers 1h30, 2h du mat. Parce que là-bas, ça ferme assez tôt. Et on se retrouve à 5h30, 6h. Je me dis, mais on est où là? Et il me dit, mais je sais pas. Je fais, bah, mais écoute, on va appeler parce que là, on est au milieu de nulle part. Et là, on appelle un taxi. Il nous dit, les gars, juste au passage sur cette route, il y a eu d'autres atroces meurtres il y a quelques années en arrière. Bon, on y était, on est là. On n'est pas mort. Donc, ouais,
Chaud.
c'était ouais, chaud, chaud. Et puis après, tout ce qui est requin blanc. J'en ai vu un de très près, en Australie, en bord de plage, à côte d'Oslo, sans compter les serpents mortels, les araignées aussi. L'Australie, c'est monnaie courante. Donc,
Et aux
voilà.
US?
Comment?
Et aux
Aux
US?
US. Aux US, un bon souvenir qui a failli se mettre un mauvais souvenir dès le départ. Donc je conduis le van, j'ai 12 joueurs avec moi. On est sur l'autoroute, pas loin un peu au nord de Los Angeles. Et là, je me fais arrêter par les policiers, mais en fait, si tu veux, ils ont comme un haut-parleur. T'as l'impression que le haut-parleur rentre dans la voiture. Ça fait un drôle d'effet. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Donc, moi, je m'arrête sur le côté. Ils te demandent de mettre des mains en évidence, comme si tu avais fait un crime, mais c'est un truc de fou. Et finalement,
Ouais.
c'était une question d'assurance de véhicule. C'était
D'accord.
l'académie qui avait oublié de mettre le truc un jour, quoi. C'est
Ah,
tout.
il rigole pas.
Non.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Des mauvais souvenirs, il n'y en a pas, c'est beaucoup d'heures de travail, c'est quasiment en Australie. Je bossais 40-45 heures, mais aux US, j'étais une fois sur 80.
Avant de basculer sur l'Allemagne. Est-ce que tu étais plus australienne, américaine ou allemande, du coup?
Pour le coup, je dirais que les Australiens sont plus cool. Après, les Californiens sont cool, mais les Australiens sont. C'est assez bluffant.
Ah ouais, putain. Et les Allemandes?
Ouais. Ouais, c'était plus froid au départ. Après, quand tu connais les gens, ça va. Mais
Ouais.
ouais. En plus, je suis resté moins de temps en Allemagne.
Et donc justement, est-ce que tu as enchaîné direct et comment
Ouais,
c'est
quasiment, parce que après être resté un an aux États-Unis, je me suis dit, tiens, je vais tenter un autre truc. Et je devais bosser en Suisse, finalement, ce n'est pas fait. J'avais envoyé pareil. Alors, pour une fois, j'avais envoyé des CV un peu partout. Je me suis retrouvé avec Claudio. J'ai envoyé un CV, je ne me rappelle même plus, j'ai envoyé un CV à Claudio Pistoletti, qui s'occupait de Robinson Irving. Il me dit, mais écoute, moi, je peux te mettre en contact avec des mecs en Allemagne. Donc, Rainer Schuppler et Alexander Vasque.
Ouais.
Et du coup, je suis parti chez eux sur l'été 2011. Je suis parti chez eux. Alors là, pareil, j'arrive dans une structure, la rigueur allemande. C'est très austère, c'est très froid, c'est très machin, mais c'est une. Ça ne bronche pas, quoi. Il y avait, à l'époque, dans l'académie, il y avait des joueurs comme Söderling, il y avait Tipsarevic, il y avait Petkovic, il y avait Kerder, il y avait Sriram Balaji, il y avait Mitja Jankovic, Anja Zaja, Anja Pushkova, Yana Sizikova. Il y avait que des joueuses et des joueurs qui étaient des top, 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 top. Alors moi, je me suis occupé de joueurs aux alentours de la 600e, de la 600e à la 300e. Et c'était une belle expérience, mais d'une rigueur incroyable. Il y avait un entraîneur qui est excellent, qui s'appelle Benjamin Ebrahimzadeh, qui s'est occupé de plusieurs joueurs, dont Bopirine à un moment donné aussi. Je voyais entraîner Petkovic et Carver, je me disais, mais comment ces filles-là font pour être. À l'époque, Petkovic était numéro 7 et Carver est 90 ou 100. Et je me disais, c'est pas possible que Carver soit 90 ou 100 alors qu'elle envoie, mais. Et finalement, quelques temps plus tard, elle a décollé. Et moi, ce qui m'a marqué en Allemagne, c'était Dirk Kordorf, l'entraîneur de Tipsarevic, qui était toujours avec ses marbreaux, il se tenait comme ça tout voûté. Et il envoyait les balles à la main, et c'est ça qui envoyait mais la foudre. Hein, complètement fan de ce joueur. Ouais, assez dingue. Je me rappelle des sessions d'Ultimate Frisbee à 7 h du mat. On faisait des journées, mais qui étaient XXL.
Énorme.
Voilà. Mais
Là,
belle expérience.
je viens de vérifier juste pour être sûr, oui, Carber était numéro 1 mondial en 2016, je crois.
C'est ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est quand je suis en 2011, elle hésitait entre New Haven et un autre tournoi au Texas. Et finalement, je crois qu'elle fait New Haven. Et derrière, elle fait demi-finale à l'US. Et du coup, je pense que de là, elle s'est dit qu'elle pouvait battre les meilleurs. Et ça a été crescendo, en fait. Ça a été crescendo parce qu'elle a gagné le Grand Chelem.
Avant de basculer sur la partie physique, comment tu as découvert le tennis et qu'est-ce que tu as ressenti au tout début?
En fait, moi, je faisais du foot, étant la région marseillaise, forcément le foot. Et puis, j'avais envie de tester un sport individuel. Vu que je faisais du ping-pong, du tennis de table à l'école, j'ai demandé à mes parents de trouver un club. Ils n'ont pas trouvé. Ma mère m'a dit, pourquoi pas essayer le tennis? Et on a essayé le tennis avec mon frère. Et dès l'achat de l'objet, en fait, de la raquette, j'ai accroché direct. L'objet, la balle, l'odeur de feutrine, je sais pas, j'ai accroché direct. C'était la période d'Agassi, courir, Chang, sans trace. C'est en 93, j'avais 9 ans.
Ouais.
Et en fait, c'est extraordinaire, quoi.
Très
Dès les
bon.
premières balles, c'est génial. J'adore ça.
Et t'es arrivé d'être pro étant jeune?
Ben, on rêve tous plus ou moins, mais après, moi, je ne faisais pas d'illusions. Je veux dire, je commençais à 9 ans, 10 ans. Je jouais les meilleurs de ma catégorie, qui était largement au-dessus. Mais tu sais, je jouais le Tennis Magazine. Et puis, je regardais les académies en Floride, toujours des bolitiers. Je me dis, putain, un jour, j'aimerais y aller. Puis là, ah ouais, donc je regarde le tarif, non, ça ne va pas le faire. Ça fait un peu cher. Mais ouais, non, ouais, forcément, on rêve de ce genre de truc quand on est gosse. Moi, ce que je rêvais, c'était de monter au classement au fur et à mesure, voir où je pouvais aller. Et je pense que j'ai exploité mon potentiel au maximum, en tout cas, en faisant les études.
T'étais
Ouais,
deux
ouais.
à quel âge?
Moi, j'étais deux. En fait, j'étais deux à 23 ans. En gagnant sur un mec qui était 1200, donc il devait être moins 2, qui a signé moins 2, après, sur ma meilleure victoire, sur le battu. Et puis après, je suis directement parti en Australie, et puis le fait de passer à entraîneur, moi j'ai coupé directement avec la compète, j'ai pas pu faire trop de compète après, quoi. Mais
D'accord.
exceptionnel, quoi. Le rapport des élites, si tu veux, même sur mes saisons où je suis que 15 ou que 5-6, je le vis comme si c'était un grand chelem, le truc.
Énorme.
Et j'ai ultra préparé. J'adore ça.
T'es une
C'est pour
machine.
ça que je peux relater par rapport à ce que tu dis, si tu veux, dans le podcast, par rapport aux joueurs et sur différents niveaux. Tu as le gars qui va être un petit peu tranquille, un petit peu relax. D'ailleurs, on m'a offert un t-shirt au tennis champagne, tu vois.
Excellent.
Je ne l'ai pas aujourd'hui. Mais ouais, c'est assez dingue.
Et comment tu as basculé sur la préparation physique?
En fait, quand j'étais, mes parents voulaient aussi que je fasse des études, donc forcément, il fallait que j'aille sur un secteur, comme une fac de sport, pour faire quelque chose. Donc, je suis allé en fac de sport pour apprendre ce métier de préparateur physique. Donc, à l'époque, c'était essentiellement sur Montpellier. J'ai fait sur Marseille mes classes avec des bons enseignants. Et puis, je me suis documenté tout seul. Et vu que la préparation physique était assez extraordinaire, si tu veux. Moi, quand je voyais Agassi, je voyais Gilles Reyes. Je ne sais pas, il y avait ce mec-là, il dégageait quelque chose. Peut-être que c'est complètement erroné ce que je dis, j'en sais rien. Mais je voyais Gilles Reyes, je voyais Agassi, je voyais sprinter dans les collines du désert californien. Je me suis dit, putain, mais c'est bon ça.
Énorme. Gilles Reyes, le prépa physique d'Agassi de l'époque, était un peu controversé aussi parce qu'il a eu Verdasco et Bagdatis qui ont pris beaucoup de masse musculaire en même temps.
Après, tu sais, il y a eu la période 2005 où il y a eu pas mal de mecs qui étaient assez volumineux en très peu de temps. On peut se poser des questions, je sais pas trop. Mais moi, si tu veux, quand j'étais gosse, je me posais pas cette question-là, quoi. Je regardais ça, je me dis, putain. En plus,
Évidemment,
le gars,
c'est
il faisait un peu mec de film. Tu vois, le gars, putain, c'est. On dirait le rebelle, quoi. On dirait Lorenzo Lamas, mais en plus gros.
C'est clair, il a une bonne tête de mafieux. Ouais, mais putain, ça doit être...
Ah ouais.
Et t'as sûrement moyen de le rencontrer aujourd'hui, non?
Je sais pas, parce que moi je voyage pas avec des joueurs, très peu, parce que moi j'ai mon travail de club, donc je fais ma préparation. Je reste dans mon monde, moi je suis un gars de club,
Énorme.
je reste sur Marseille. Si jamais je suis appelé à bouger, éventuellement je peux le faire, mais en priorité c'est Lionel et Martin qui le font, quoi.
Et donc, t'as progressivement basculé sur la prépa physique.
Ouais, en fait, je fais les deux. C'est-à-dire
D'accord.
qu'avec les joueurs, là, je suis essentiellement sur la préparation physique. Mais ouais, je
Ouais.
fais les deux au quotidien. Les
Ok.
deux au quotidien.
Et où est-ce que tu
Voilà.
prends le plus de plaisir? Où est-ce que tu penses être le meilleur?
Moi, je prends du plaisir dans les deux. Vraiment, je prends du plaisir dans les deux. Il n'y a pas tellement de plus que l'autre. Je dirais que j'aime bien mêler les deux. Chaque fois, j'aime bien les deux, notamment sur la préparation physique spécifique, tout ce qui est petits mouvements, hein, ce que fait très bien par exemple Douglas Cordero, ce que fait très bien Brian Daboul, ce que fait très bien un Jess Green ou un Matt Little, ce genre de boulot. Il y a aussi Christophe Ostiakis qui s'occupe de Tsitsipas. Voilà, donc c'est des gens comme ça qui sont. Il y avait aussi Marino Basic qui s'est occupé de Coric pendant des années. Des mecs comme ça qui sont très motivants. Et aussi Alistair Macko. Voilà, très bon.
Matt Little, c'est Andy Murray, c'est ça, hein?
Ouais. Ah, là, c'est du très fort. Matt Little, Jess Green, Joko, c'est un peu plus. On voit moins les choses. Comme Roger, hein, par rapport à Paganini, qui est un ponte, mais on voit très peu en fait ce qu'ils font. Moi, j'essaie de diffuser un maximum. Ces joueurs-là, ben, forcément, ça reste confidentiel pour diverses raisons, ce que je peux comprendre. Mais à l'époque, Murray avait mis pas mal de vidéos avec Jess Green et Matt Little sur les réseaux sociaux. Il y avait
D'accord.
un cover de ATP qui était extraordinaire sur sa pré-saison c'était en Floride.
OK.
Et assez extraordinaire. Et maintenant, je crois que Jess Green s'occupe de Zverev.
Okay.
Voilà.
Où est-ce que on va parler de Benjamin Bonzi qui est quand même dans la lumière plus ou moins là depuis quelques mois avec la série de victoires qu'il enchaîne, je crois 21 victoires sur le circuit là sur la saison 2021.
Ouais.
Toi, qu'est-ce que t'as. Où est-ce que tu l'as pris? Il était loin, il était 400e mondial, là il est top 100. Comment tu l'as récupéré? Enfin, comment tu l'as rencontré? Comment il était à cette époque-là? Et où est-ce qu'il est aujourd'hui avec la prépa physique que vous faites depuis tout ce temps?
Benjamin, moi, je l'ai rencontré en octobre 2019, 400e mondial. Et Ben, c'est un gars qui est très humble déjà. Et qui était très timide. C'est quelqu'un qui peut paraître un peu en retrait. Et moi, quand je l'ai récupéré, il y avait le mot d'ordre de Lionel qui était de rendre son tennis plus agressif. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il se déplaçait bien, que c'était un bon bagarreur, mais qu'il était trop loin. Et qu'avec ce style de jeu-là, il pouvait pas intégrer, si tu veux, le top 100, qui était un petit peu un objectif de carrière. Et puis pour après s'installer dans le top 100. Donc il a fallu déjà, il lui a changé la raquette. Donc quand il a changé la raquette de Ben, il a fallu refaire un travail de poignet parce que la raquette était plus contraignante pour le poignet, elle était un peu plus puissante aussi. Donc il a fallu faire des ajustements là-dessus. Il y a eu un énorme travail de force à faire sur la force max pour redévelopper tout ça et comprendre en fait que Ben il puisse réavancer dans le terrain tout en gardant cette qualité de déplacement latéral. C'était un peu un peu le challenge. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'après cette pré-saison 2019, donc en janvier 2019, on a fait un gros bloc. Et premier tournoi, il part chez Rafael Nadal et il prend une doudoune sur Evan Furness. Mais je savais que le job avait été fait, si tu veux. Mais les choses se sont mises progressivement en route sur le tournoi d'après. Quoi pas sur le tournoi d'après, sur deux tournois d'après, quand il part en Thaïlande. C'est vainqueur simple et double. Qui part ensuite à Bangalore en Inde, mais justement il est actif à ce moment-là. Il fait finale sur un 125 000, finale qu'il peut gagner contre Jamie Duckworth. Et en fait, tout s'est enchaîné après. Il est parti en Afrique du Sud, il a gagné un 25 000, ensuite sur un 50 000, il a fait quart de finale, puis il y a eu Covid. Donc c'est lui arrêt de saison. Mais si tu veux, tout s'est mis en place progressivement. Le fait de prendre confiance déjà en son coup droit, faire en sorte qu'il élève son niveau de pourcentage de première balle de service. Qu'il soit plus puissant en fond de court tout en gardant cette qualité de déplacement. Le truc était là. Et qu'il prenne en force et en puissance sans perdre sa qualité de déplacement et de mec qui remet tout, quoi. C'est un calvaire, en fait. C'est une sangsue, quoi.
Est-ce que tu prends personnellement du coup si un joueur, tu vois, tu dis quand il est parti au tournoi sur l'académie de Rafa et qu'il prend une doudoune, admettons un joueur que tu as en entraînement physique enchaîne une série de défaites au premier tour ou une phase où mentalement il est plus dedans, est-ce que toi tu te remets vachement en question du coup sur ton taf de dire attends, est-ce que mon approche elle est bonne? Est-ce que...
On est obligé. On est obligé. Parce que certes, si le gars il gagne, le crédit lui revient. Et si le gars il perd, ça retombe très très souvent sur la préparation, sur l'entraîneur, etc. Et c'est à nous de faire en sorte de nous remettre en question sur les choses qui ont pu. Là, par exemple, quand il a perdu ce match-là, il a fallu remettre beaucoup plus de vitesse.
Ok.
Voilà. C'était un truc. Il se peut que ce soit vrai, il se peut que ce soit faux. En tout cas, il faut chercher pour essayer d'améliorer, simplement. Le challenge, c'est de rendre le joueur meilleur et surtout lui permettre d'être en confiance pour passer le cap supplémentaire.
Toi, t'as pas
Voilà.
envie de voyager sur le circuit, t'es bien comme ça en club?
Si. Le truc, c'est qu'après, il faut toujours trouver un peu l'équilibre. Vu que moi, j'ai une bonne fonction dans le club, c'est pas évident de tout faire parce que, comme je te dis, moi, le mercredi matin, j'ai des gamins qui ont 4 ans, quoi.
Ah ouais, t'es partout.
Donc, j'ai un delta qui est énorme. Là, tu vois, aujourd'hui, j'ai entraîné des joueurs. Aujourd'hui, j'ai des tests physiques avec Ben Bonzi et Laurent Locoli. Et ce soir, je suis en école de pré-compète sur la première heure sur des gamins qui ont 10-11 ans, qui sont non classés, qui jouent de l'époque, puisqu'on parlait, qui jouent, on va dire, balle verte par rouge de l'époque. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça jouerait un balle intermédiaire, balle vieux, en termes de niveau. Et ensuite, en soirée, à 19h, je passerai sur des joueurs qui vont maximum jusqu'à 3, 6, 2, 6. Mais les joueurs qui commencent à 15, 2, 15, 3. Donc le delta, il est énorme. Et moi, j'aime bien ça aussi. J'aime bien m'adapter.
Est-ce que tu sens que grâce à tes expériences aux US, en Australie et en Allemagne, ton approche aujourd'hui, c'est un mix de la rigueur allemande, du côté plus cool quelque part, j'en sais rien. Est-ce que tu as fait un pot pourri de tout ça et à quoi ça ressemble?
C'est un peu pourri. Après, moi, je me suis rendu compte, surtout aux États-Unis, c'est que la pédagogie était beaucoup basée sur le coup fort. Beaucoup, beaucoup. Et que nous, en France, on essaie d'équilibrer à chaque fois et c'est pas forcément bon. Quand on regarde le tennis de très haut niveau, bien sûr qu'ils améliorent le coup faible, mais tout est basé sur le coup fort. On va pas demander à Andy Roddick de je sais pas moi, de faire des chips de bout de course. Ou de tout le temps faire des premières secondes alors qu'il peut envoyer du lourd. Ça n'a pas de sens. Et nous, en fait, on a tendance à vouloir tout le temps équilibrer. On veut équilibrer à droite, on veut équilibrer à gauche, on veut équilibrer, refaire un beau joueur. Est-ce que c'est efficace? Je sais pas. Tu sais, quand j'étais aux États-Unis, il y avait un tournoi qui était énorme et j'ai vu un Steve Johnson qui, à l'époque, jouait à USC. Il n'était pas encore professionnel. Et il était invaincu avec sa fac. Et je l'ai vu jouer, j'ai compris. Lui, mais c'est comme ça qu'ils sont plus droits, comme ça en chip d'envers. Le gars, il a envoyé la foudre, hein, tous les coups, quoi. Et le gars, il est arrivé sur le top 100, il est quasiment arrivé top 20. Il dit, ce gars-là, il s'est arrêté en France, il lui aurait dit, attends, ton revers, là, non, il faut que tu changes, essaie de passer dessous, essaie de faire quelque chose de beau. Lui, il était comme ça, il s'était très heurté, il faisait un chic qui était rasant pour croiser, pour derrière, dès qu'il allait coup droit et envoyer la sauce, soit long de ligne, soit décroisé. Il avait un kick de revers, un kick de service, ici, il l'a envoyé grillage latéral. Je l'avais vu en finale contre Bradley Plan. Donc, ces deux joueurs qui ont terminé en top 100 derrière. Steve, il a terminé top 20 et Bradley, il a terminé top 60. Il y avait des équipes de dingue. T'imagines même à UCLA, t'as des gars comme Marcos Giron, comme Mackenzie McDonald. Tu prends un Jenson Brooksby, tu vois, c'est des techniques gestuelles qui ne sont pas très, très, très académiques. Et les gars, ils sont d'une efficacité redoutable.
J'espère que cette première partie avec Ralph t'a plu. Viens nous le dire avec un like et un commentaire sur YouTube. Pense aussi à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est sur cette plateforme que tous jouent et qui permet de mieux référencer notre travail. Le bouche à oreille nous aide aussi comme jamais. Alors envoie l'épisode à un pote ou une amie qui a besoin d'un coup de boost en termes de prépa physique à l'approche de l'hiver. Puisqu'on a sorti notre sixième masterclass dédiée à la préparation physique et c'est la première qui est tournée sur le court avec l'invité de ce hors-série, Ralph Bogossian. Ce nouveau cours d'1 heure est axé sur le travail de l'œil pour une meilleure vision et lecture du jeu, ce qui va considérablement améliorer ta qualité de centrage à la frappe. Puis la seconde partie est dédiée au déplacement, au freinage et à l'ancrage pour une plus grande stabilité dans tes coups. Le but de cette masterclass est de mieux lire les trajectoires pour t'organiser plus rapidement sur le terrain, d'être moins stressé dans tes coups sous pression et d'être toujours bien placé derrière la balle. T'as accès à un programme détaillé juste en dessous, c'est le premier lien en description. Ce nouveau cours est donc enregistré sur un terrain de tennis au soleil. Il est possible de le suivre au format audio et vidéo. Et je t'ai également concocté un support écrit en complément. Pour t'abonner et recevoir une nouvelle masterclass tous les 15 jours, tu as un lien juste en dessous. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est aussi possible en allant tout en bas du lien en description ou en m'écrivant à max@tennislegende.fr. Merci aux tipeurs qui nous soutiennent sur la plateforme Tipeee. Tu peux le faire à hauteur de 3 ou de 1000 euros, chacun son budget. Le lien est dans le bas de la description de cette vidéo. Si tu as des idées de partenariat ou que tu as envie de parler lors d'une longue soirée d'hiver, n'hésite pas à m'ajouter sur LinkedIn à Max Zamora, Zamora, ou sur Insta à Max Emia, Etemia, Emia, le tout attaché. Merci pour les bonnes ondes, les légendes. À très vite pour la seconde partie de ce hors-série et pour la suite des festivités de manière générale. D'ici là, prends soin de toi